L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui d'écouter l'enregistrement effectué le 10 septembre de cette année au Gazette Café de notre troisième Gazette Africa au titre de L'arbre à palabre à l'écriture engagée. Vous l'aurez compris, il s'agit de littérature africaine. Et dans cette première partie, c'est Marcel Camille qui est l'éditeur de la revue Ombungi, qui veut dire, je pense aussi, il est congolais, donc Ombungi veut dire l'arbre à palabre aussi. Et il est reçu, dans cette partie-là, il est reçu par Nathalie Bouly, qui est donc notre très compétente animatrice de l'équipe. Je vous souhaite une bonne écoute à tous.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et de partager ce moment avec vous, ce long moment. Et alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis aussi ravie de faire découvrir Marcel Camille, que je connais un petit peu. Et donc, pour mieux vous connaître, on va d'abord parler de vous, parce que bon, beaucoup d'entre eux, des gens qui sont là aujourd'hui, vous connaissent, mais certains ne vous connaissent pas. Donc, je vais lire sa bibliographie, celle qu'on trouve sur Internet. Et d'ailleurs, dès le début, je vais avoir une question un peu étrange sur votre bibliographie. Sur votre biographie, pardon. Donc, vous êtes né en Afrique centrale, à Brazzaville, au Congo, en 84, d'un père médecin et d'une mère analphabète. Voilà. Alors, j'étais très étonnée par la définition. Est-ce que c'est une définition médecin? Oui, analphabète, voilà. Hein? Étrange.
Oui, parce que même mon père et ma mère aussi, quand ils m'ont parlé, c'était un peu la rencontre de deux mondes, en fait, entre les deux personnes. Donc, c'est deux univers complètement différents, presque, même si mon père a été, il a été paysan. Mais très tôt, quand même aussi, il a été élevé par les prêtres. Donc, il a dû être arraché pendant un moment pour faire déjà ses études, éduquer avec des prêtres blancs, catholiques. Et ensuite, faire ses études, venir ensuite en France et faire ses études de médecine.
Justement, c'est important avec ce que disait Marie-Claude. C'est quoi la définition d'analphabète dans un pays où l'oralité est tellement importante, justement ?
Oui, exactement. Et ce n'est pas forcément en lien avec l'écriture. Voilà. Et je me souviens de ce que disait la prof d'histoire qu'on avait en première. L'analphabétisme, c'est au fait... Enfin, être alphabète, c'est avoir une connaissance particulière. Mais nous sommes tous semi-analphabètes. Donc, on peut avoir une connaissance dans un domaine, mais ne pas forcément connaître un autre. Parce que quelqu'un qui joue de la guitare, mais qui ne saurait pas chanter, il est semi-analphabète parce qu'il ne sait pas chanter. Voilà. Donc, c'est une affaire de nuance et d'angle aussi.
Donc, après, très vite, vous vous adonnez, vous aimez être poète et devenir poète. Et dès l'âge de 10 ans, passionné alors par Guy de Maupassant, Robert Desnos et surtout Victor Hugo, vous esquissez vos premières rimes. Alors là, c'est trois auteurs français.
Oui, exactement.
Est-ce qu'il y a des auteurs congolais qui vous ont à ce moment-là inspiré aussi ?
Les auteurs congolais, je les ai en particulier lus un peu plus tard. Un peu plus tard et aussi par rapport à la thématique qu'ils proposaient, c'est... des auteurs engagés, je crois qu'on est d'ailleurs dans la thématique aujourd'hui. Et donc celui qui me passionne en particulier, c'est en tout cas qui me touche, c'est Tikaya Utansi. Tikaya, il a une forme de, je dirais de lyrisme mélangé à du sacré, de la métaphysique que j'aime beaucoup. C'est une forme de C'est tout un florilège au fait quand on lit et lui c'est en étant adulte au fait que j'ai eu accès.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'à l'école, dans les programmes scolaires, il y a aussi des auteurs congolais ou est-ce que dis surtout Maupassant ou Victor Hugo?
Bon, on a quand même beaucoup d'auteurs et en plus ce sont des auteurs qui ont marqué le début du XXe siècle, dans l'écriture, la littérature nègre, ce mouvement qui a été une période justement de réappropriation et de réaffirmation de ce qu'elle est, de ce qu'elle a de particulier, et aussi ce qu'elle apporte dans les arts modernes aujourd'hui. on oublie parfois que ce sont justement ces tendances traditionnelles que l'on retrouve en Afrique et qui ont inspiré beaucoup d'artistes, aussi bien dans l'écriture que dans la peinture et tout.
C'est dans quelles années ça ? C'est quoi ?
Alors, par exemple, Emmanuel Dongala, c'est, je crois, dans les années 70, voilà. Voilà. Et puis, un peu plus tard. Oui.
Et c'est dans la suite, enfin, on parle aussi de Frantz Fanon, en fait, de toute cette école alors, des Caraïbes, hein, qui a rejoint mouvement-là. C'est aussi ces années-là ?
Alors. Je n'oserais pas mettre dans le même courant Frantz Fanon, même s'il y a aussi une forme de...
Il y a de l'engagement.
Oui, il y a de l'engagement, mais c'est vraiment complètement différent. Et je ne pense pas qu'il ait revendiqué aussi, en tout cas quand je parle de la négritude, par exemple. Mais oui, ça fait partie de ces porteurs, justement, de cette... conscientisation donc de l'écriture, de l'être noir et pleinement intégré dans son temps et qui devait s'exprimer.
C'était le nom je l'ai qui a conceptualisé ça, c'est le grand écrivain guadeloupéen.
Ah, en fait, Aimé Césaire.
Merci, bon, j'avais... En fait,
ils sont plusieurs. Voilà. Ouais. Ils sont plusieurs, donc il y a Aimé Césaire, Senghor, et puis un autre, exactement, merci beaucoup. Mais en plus, les trois-là ne sont pas, il y en avait d'autres, même Tika Utansi était de cela, mais il ne l'a jamais revendiqué, déjà, par son style et tout. Mais vraiment, celle qui, en fait, c'est une dame qui est plutôt à l'origine de ça. C'est
j'ai oublié
Nardal, je pense, mais j'ai oublié son nom, son prénom.
Anthony, le nom, c'est, vous le connaissez?
Nardal, oui, le prénom j'ai oublié aussi.
On mettra en lien tous ces noms sur le site.
C'est elle qui recevait à l'époque, donc c'est elle qui recevait dans ses salons, Aimé Césaire et Léon Contant-Damas et Senghor.
Et avec toutes ces références, vous étiez déjà un enfant curieux des mots, comme vous l'êtes devenu adulte. Après, c'était déjà un univers qui vous entait. Parce qu'après, les études de biologie, c'est quand même très, très éloigné de l'univers poétique. Quoi qu'on peut voir aussi de la poésie en biologie. Hein, c'est pas...
Oui, bon, c'est vrai que, effectivement, j'ai plutôt un cursus de scientifique, biologie scientifique. Ouais. Mm-hmm. Et j'ai un bac D, d'ailleurs, en sciences naturelles. C'est vraiment l'ancien programme... en français, et j'ai commencé donc par à suivre une première année en filière chimie, biologie, géologie au Congo Brazza, CBG, à l'université Marie-Ngouabi. Et c'est suite à cela que j'ai eu une préinscription ici en France,
en
à Montpellier,
en 2004. Donc vous arrivez en France en 2004.
Exactement, donc pour poursuivre la microbiologie jusqu'en licence. Et puis c'est là que j'ai commencé à délirer.
Donc vous avez 20 ans, vous arrivez à Paris, à Montpellier, vous continuez vos études, vous laissez tomber ces études de biologie
pour faire un DU
en santé, solidarité, précarité.
Oui, c'était même pas dans l'immédiat, j'ai d'abord erré un petit peu parce que j'ai été forcé un peu d'arrêter les études parce que j'avais beaucoup de soucis, des problèmes que rencontrent la plupart des étudiants qui viennent de l'étranger en général. Et à ce moment-là, avec mes notes qui ne suivaient pas forcément, qui ne plaisaient pas à la préfecture, donc j'ai dû arrêter parce qu'ils m'avaient déjà donné une notification, donc où j'étais dans l'obligation de réussir cette année, enfin, en tout cas ma dernière année. Et puis, comme je suis un peu têtu, rebelle et tout, donc j'ai raté une troisième fois ma licence. Et je ne me suis pas présenté à la préfecture pour nous parce que je savais qu'ils allaient me donner un refus complètement. Et donc, je suis resté comme ça. J'ai travaillé à faire des petits boulots au noir, jardinier. Voilà. Et puis, un jour, en faisant le ménage, comme ça, j'ai travaillé en fait, chez un écrivain. Et c'est cette rencontre-là, finalement, qui m'a permis en fait, de me lancer parce que je lui ai présenté des textes que j'avais écrits... enfant et que j'avais gardés en plus avec moi.
Parce que déjà, en cinquième, vous avez gagné un prix.
Oui, alors, ah, oui, oui, oui.
Déjà, c'est un homme sensible aux prières.
C'était effectivement au collège, il y avait pas mal de petits concours comme ça qui étaient organisés par, il y avait le Centre des Nations Unies, il y avait l'UNESCO, et puis on était dans une période assez compliquée. On sortait de différentes guerres civiles en 1993, 14, 97 et ensuite 98.
18.
Et à ce moment-là, il fallait un peu mobiliser au fait la jeunesse. On avait besoin d'énergie au fait. Et donc, quoi de mieux que l'art au fait. Donc, ça a été des concours de dessin ici, dans tel quartier, voilà, et dans les villes aussi. Et puis, ça me permettait au fait de, disons, d'avoir cette impression de continuer de vivre.
Et donc cet écrivain, il lit vos textes d'enfance, de jeunesse. Vous continuez à écrire, c'est dans les années justement quand vous arrivez en France, 2004, 2010, tout ça, vous continuez à écrire ?
Un petit peu. Bon, c'était souvent des lettres d'amour comme ça que j'ai...
C'est déjà pas mal.
Exactement, j'étais complètement à côté de la plaque.
Donc... Et donc, lui, il vous pousse à les retravailler, à les réécrire et à vous faire publier. C'était important aussi d'arriver à la publication.
En tout cas, il m'encourage à me lancer. Bon, j'étais un peu intimidé parce que je n'avais pas réellement fait d'études littéraires et le peu que je connais que j'ai comme connaissance et tout, c'est des rudiments de ce qu'on a quand on est en filière scientifique, mais aussi mon père, comme je disais, qui a été élevé par les prêtres à un moment donné et tout, et donc voilà, lui c'était le latin, le grec, voilà, il s'en est sorti avec des 19 au fait en latin et tout, donc beaucoup de littérature, et il me considérait un peu comme un cancre en littérature.
Et il a lu votre poésie aujourd'hui ?
Il a lu, en tout cas, il n'est plus depuis 2013, mais il a lu mes premiers écrits. Donc, il voulait que je devienne médecin, comme lui.
Ah.
Mais ça ne s'est pas fait, et puis il a vu les changements. Il en était inquiet. Donc, en tout cas, ces esquisses-là que je faisais à l'époque. Et puis un jour, je suis tombé sur des feuillets qu'il avait. En fait, je les avais garés. En fait, c'est lui qui les avait. Ils avaient mis dans un de ses livres de chevet. Et c'est là que je me suis dit, tiens.
Il s'y intéressait.
Oui. Et depuis, ça ne m'a pas lâché. En fait.
Donc, votre premier livre paraît en 2014. C'est De l'encre sous les gravats, qui est édité chez Edilivre. Il y a eu un travail, justement, avec cet ami auteur pour créer ce livre, pour le monter, pour choisir les textes.
Non, à ce moment-là, c'est un peu comme si j'avais pris le parachute moi-même et puis je m'étais jeté de l'avion et tout. C'est en plus un livre que j'ai écrit très rapidement. Je prononce en deux semaines. Et puis, il n'y a pas beaucoup de pages non plus. De l'encre sous les gravats, c'est... Je sortais d'une période, j'amorçais en fait une forme de deuil à ce moment-là parce que je perdais mon père et 2 mois après je perdais ma meilleure amie aussi et c'était dans des circonstances justement j'étais sans papier et tout, mais après il y avait pas mal de choses que j'essayais de remettre en place et la symbolique des gravats pour moi ça, à ce moment-là ça avait du sens, il y avait l'idée d'utiliser tous ces éléments-là qui étaient complètement effrités, tous ces débris-là, mais les réutiliser pour construire autre chose. Et puis, quitter l'ombre du médecin qui n'a pas été et devenir qui je suis réellement, en fait. Donc, l'auteur, l'écrivain, donc De l'encre sous les gravats.
Après, 2 ans après, vous faites paraître Conte et Fleurette ou Les sornettes d'une trique en liesse, donc oui. un recueil de poésie érotique.
Oui, voilà, érotique. Et c'est justement après De l'encre sous les gravats, j'avais envie de donner un autre ton. Et en plus, c'est des textes que j'avais écrits bien avant le premier recueil. Et puis, j'avais cette envie de sortir vraiment ce bouquin-là. Et puis, comme je suis de... C'est mon tempérament aussi d'être un peu, blagueur, avoir tout...
Parce qu'il y a énormément de...
Oui, voilà. Il y a de la parodie dedans, il y a un côté burlesque aussi dans les textes. Et, l'idée, c'était vraiment de s'amuser et aussi de jouer avec le lecteur.
Et puis le dernier, c'est en 2019,
Oui, en fait.
Hein, écrit noir, encre rouge.
Oui, en fait, l'avant-dernier.
Tapuscrit. C'est l'avant-dernier, voilà.
Oui.
Aux éditions Tapuscrit, pour lequel vous avez eu le prix Aimé Césaire,
que
vous avez été chercher à Capitale.
Ouais. Oui. Ah,
c'est important, cette reconnaissance des pairs en poésie?
À ce moment-là, oui, parce que ça m'a permis d'être, on va dire, édité à compte d'éditeur, donc sans avoir à
vous préoccuper de toute la...
Voilà, et tout. Donc, puis aussi, c'est un autre regard des lecteurs, tout. Ça, je l'ai remarqué de toute façon. À un moment donné, j'ai travaillé en librairie et il y a des personnes qui sont influencées par le fait qu'un auteur ait un prix. Donc voilà, ils choisissent de lire ou pas selon. Après, bon, on peut s'arrêter à la couverture des fois. Mais là, ça a amorcé une autre dynamique.
Et le
aussi.
Dernier, alors ? Parce que c'est l'avant-dernier ?
Le dernier, c'est moi qui l'ai auto-édité en 2020, juste à peu près 2 semaines avant le confinement, je veux dire, le premier confinement. Donc, c'est Cantate du soir et Petit Piedinko. Et c'est un livre que j'ai écrit, un recueil que j'ai écrit pendant à peu près 4 ans, 5 ans. C'est un univers complètement... déstructuré.
Toujours dans la poésie.
Toujours dans la poésie.
D'ailleurs, oui, vous aimeriez écrire autre chose que de la poésie ? De vous lancer dans le romanesque ou dans le témoignage, hein, y a pas de...
J'avoue, j'ai des projets. En fait, j'ai déjà amorcé certains projets comme ça, par exemple de romans sur lesquels je travaille, et de nouvelles aussi. J'ai écrit, j'en suis à une dizaine de nouvelles au moins, et j'ai un prix. Aussi de la nouvelle, donc reçu à Fabreg. Et c'était d'ailleurs le premier prix que j'ai eu en 2016 en tant qu'auteur. Ça m'avait un peu frustré parce qu'à ce moment-là, j'étais pas édité. En tout cas, je n'avais pas de recueil de nouvelles éditées, mais j'avais un prix de la nouvelle et pas encore de prix au niveau de la poésie en tant qu'auteur. Donc, oui.
Mais la nouvelle, en plus, les deux, que ce soit la poésie ou la nouvelle, c'est deux formes littéraires qui sont difficiles en France. Hein. C'est pas...
Oui, exactement. Et on dit que c'est... en tout cas, la nouvelle, c'est plus...
Vous n'êtes pas arrivé par les chemins les plus faciles.
Non, j'aime bien me couper les cheveux en quatre parfois. Mais...
Vous êtes aussi très présent sur la scène Montpellier-Rennes. On vous voit... je vais tous les citer, mais si j'en oublie... Vraiment, aidez-moi, hein, mais je pensais à Scrupule, à Tapuscrit, aux
Exactement.
Scènes ouvertes de Christian Malaplate à Pétrarque.
Exactement.
Vous n'hésitez pas à vous mettre à être présent dans les événements comme la Grande Parade Métèque. Enfin, voilà, vous êtes hyper présent sur toute la scène. Je sais qu'on est juste à côté de l'artisan. Je sais que vous faites. Voilà. C'est des histoires d'amitié. C'est important pour vous d'avoir tout ce réseau en même temps amical et professionnel, parce qu'il y a les deux, pour vous faire connaître.
C'est des rencontres. Et de toute façon, lorsqu'on écrit... on peut écrire pour soi. On peut écrire pour soi, mais je pense qu'il y a, dans l'écriture, il y a un besoin aussi de partage. On ne sait pas forcément à qui va parvenir, au fait... Le texte, le mot que l'on écrit, mais inconsciemment, je pense qu'on espère en fait une sorte de résonance. Donc, il y a toujours ce besoin de rencontre et le fait de participer ou d'être dans différents cercles. Souvent, c'était les cercles de lecture, les cercles de...
C'est plein de petits arbres à palames.
Exactement. Voilà. Donc, en fait, ça fait évoluer l'écriture. Ça enrichit aussi. Donc,
et c'est toutes ces rencontres qui vous ont mené un jour, déjà, avant de... On va parler de la revue. Mais entre l'auteur et la revue, et presque l'éditeur, on peut dire aujourd'hui, y a eu le libraire. L'idée de devenir libraire, de donner visibilité à toute... À tous ses amis ou à toute aussi une culture qui venait du Congo, une culture africaine qu'on ne connaissait pas. Ça a été quoi le chemin pour être libraire ?
Déjà, au fait, en tout cas, le plus marquant, ce qui m'a définitivement poussé à devenir.
En 2020.
Oui. 2020. Ça s'est passé en 2020. J'ai fait la formation, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle en ayant ma régularisation et tout en 2019.
Aidé par la CC, la Chambre de commerce de Montpellier, non ?
La Chambre de commerce, en fait, de Montpellier est intervenue en 2020, enfin plutôt 2021 à ce moment-là. Mais j'ai d'abord fait une formation à l'INFL, donc l'école de la librairie. C'est l'Institut national de formation des libraires ici en France. Et à ce moment-là, c'était vraiment pour être déjà connaître disons, affermir un peu les bases que j'avais de la librairie, parce que j'étais, bénévole à la librairie Scrupule pendant à peu près 2 ans, entre 2016 et 2018.
Qu'un fonctionnement plus...
associatif et tout, voilà. Mais ça m'a permis déjà d'être au contact avec les lecteurs, la façon de demander et tout, leurs besoins de lecture. Et voilà, je ressentais vraiment ce besoin-là de faire ce travail. Mais c'est l'expérience d'auteur, auteur indépendant, donc en faisant les démarches auprès des libraires et tout, donc pour inscrire mes recueils en vitrine.
C'est sachant là que je c'est me suis difficile quand même, on peut mettre le doigt dessus, mais
exactement.
Quand on est édité chez Edilivre, c'est très très difficile de se retrouver en vitrine.
Exactement.
Surtout, voilà. Pour de la poésie.
Pour de la poésie, ouais. Et c'est là qu'effectivement on comprend à peu près comment se passe toute la politique qui existe, donc de diffusion et l'accueil, comment les libraires en fait choisissent donc les auteurs qu'ils veulent mettre en
choisissent
en librairie,
ou pas, hein.
Ou pas, exactement.
Parce qu'il y a aussi beaucoup de représentants qui viennent. Enfin bon, il y a encore énormément de libraires curieux, mais il y a aussi des libraires qui prennent un petit peu ce que leurs représentants.
Exactement, les représentants justement qui sont là pour faire le travail de diffuseur et représenter des maisons d'édition. Mais après, moi, ce que je fais, c'est que j'entre dans un autre circuit où on est plutôt indépendant, autonome. Et ça, c'est quelque chose qui est né avec justement une de mes aventures que j'ai eues en 2020, donc où je suis allé présenter le livre « Écrit noir, encre rouge » qui a eu le prix Aimé Césaire dans une superbe librairie
Montpellier.
Oui, Montpellier.
On les dénonce ou pas? Non, allez, on dénonce
oui.
Pas.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe.
Bon, bah, alors ça va alors.
Un peu plus sympa. Mais en tout cas, en 2020, je suis entré dans cette librairie donc, pour présenter le livre. Bon, déjà, la première remarque qui m'a été faite, c'est qu'ils avaient besoin de lecteurs et pas d'auteurs. Je lui ai dit, ben, c'est bien, je vous apporte aussi des lecteurs. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est juste d'avoir un espace où organiser des dédicaces. En plus, je suis hyper actif. Je fais des lectures, des performances scéniques et tout. Et en plus, parfois accompagné de musique. Donc, voilà, je bouge beaucoup. C'est tout bénef pour vous.
C'est donnant-donnant.
Voilà, c'est donnant-donnant. Et je sentais que la libraire était réticente et tout.
On connaît la libraire maintenant.
Voilà. Et donc, elle a quand même parcouru mon livre. Et puis, à un moment donné, elle m'a fait la remarque que les textes étaient un peu crus et directs et très engagés. Et qu'elle ne voulait pas avoir de problème, en gros, avec... je ne sais pas avec qui.
Une censure, une éventuelle censure. Hein.
Voilà, et c'est là que j'ai compris effectivement la difficulté à être déjà un auteur, on va dire, engagé. Pas forcément militant, mais engagé déjà. Et le fait d'être auteur engagé, ben, ça veut dire que l'on porte quelque chose et on souhaite que ce que l'on porte s'incarne, en fait. Donc,
on aurait pu lui dépecer sa boutique, on en aurait trouvé plein, hein, quand même, des auteurs engagés qu'elle accepte, parce que l'engagement, il fait partie aussi d'une grande partie de la vie des auteurs, l'engagement.
Exactement.
Que ce soit un engagement politique, mais un engagement dans sa sexualité, enfin, l'engagement n'est pas uniquement politique.
Exactement.
Donc là quand vous avez cette idée de librairie qui monte en vous, là, on crée, c'est tout de suite Internet? Ou est-ce que vous avez, à un moment, éventuellement pensé à ouvrir un lieu?
Non, je souhaitais d'abord avoir un lieu, un local. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai fait la formation avec la CCI, en tout cas pour la création d'entreprise et tout l'accompagnement. Et puis avec tout ce qui s'est passé, confinement 1, confinement 2, et puis les restrictions pour les libraires, il faut aller 2 mètres carrés pour une personne, ainsi de suite. Je me suis dit, bon, ce n'est pas tout de suite que les choses vont s'arranger. En plus, 3e confinement, je me suis dit, allez. Donc je vais commencer en ligne pour l'instant. Et ça a été un peu ça, au fait, du coup, l'expérience donc de sortir de la zone de confort tout faire des choses. Bon, c'est vrai que le numérique, ce n'était pas du tout mon
domaine.
Voilà. Mmh. Et avec la force des choses, ben voilà, je m'y suis mis. En tout cas, du coup, j'ai créé la donc le site web.
Et tout de suite au bon Guy, puisque bon, on est dans l'arbre à pas l'arbre. D'ailleurs, la première fois que vous m'en avez parlé, je l'ai mal dit. Je dis bon Guy, j'ai pas mis le O. Il m'a recadré sérieusement là. Fallait pas oublier le O.
C'est moi qui l'ai fait.
Non, c'est moi qui. Moi, j'avais dit bon Guy, j'avais pas mis le O.
Oui, oui.
Et c'est là que vous m'avez expliqué ce que c'était, l'arbre à pas l'arbre.
Oui, bah, c'était
le nom. Il est arrivé tout de suite parce que c'est le nom de la librairie.
Oui, en fait, j'avais un premier nom, et d'ailleurs, je ne sais même plus. Oui, c'était l'étagère ailée, quelque chose comme ça. Je faisais un jeu de mots entre ailée et ailée, en fait. Ailée, le fait d'interpeller quelqu'un. Et ensuite, j'ai remarqué, en fait, pendant la formation, il fallait étudier l'identité de la librairie. Donc, ce que l'on propose vraiment, l'identité, c'est vraiment ce que l'on incarne, soit comme libraire auprès du lecteur quand il arrive dans le local. Et en fait, je m'étais rendu compte que j'aimais beaucoup en fait les BD moi-même, et je découvrais des BD en particulier du Cameroun, les BD du Cameroun et d'Afrique du Sud. Et ce sont des bandes dessinées que l'on ne trouve pas forcément ici. Et c'est de là que je me suis dit, mais tiens, c'est l'occasion, en fait, de faire cohabiter, en fait, toutes ces choses complètement différentes, donc assez disparates, et puis, mais qui reflètent l'univers de l'Afrique, l'univers des Antilles, et tout, et aussi les auteurs d'ici, en Occitanie, les auteurs indépendants.
Je dis, mais de votre réseau, alors, justement.
Exactement,
aussi.
Du réseau. Et je dis, mais ce qui ressemble vraiment à ça, ben, c'est une sorte, ben, c'est un peu l'arbre à palabre, en fait. L'arbre à palabre, chez moi, l'arbre à palabre, son équivalent, du moins, c'est le mbongi. Donc, on est plusieurs dedans. C'est le hangar ou la paillote où on se retrouve pour parler de choses vraiment diverses, des préoccupations des différentes personnes qui fréquentent le mbongi. Et l'idée, c'était ça. Mm-hmm. Donc, arriver à faire cohabiter des identités différentes. Des identités différentes, des messages différents aussi. Et de proposer une véritable diversité. Donc, déjà, par rapport aux maisons d'édition alternatives et aux auteurs indépendants, auto-édités, qui n'ont pas encore...
qui ont du mal à se faire diffuser. Et c'est ce chemin-là que vous connaissez vraiment bien.
Exactement. Mmh. Voilà.
Il y a combien de titres aujourd'hui au catalogue ?
Alors, j'en suis encore à juste une petite soixantaine, à peu près.
Et alors le chemin entre la librairie et la revue. J'aurais dû, avec Claude, montrer la revue, voilà. Puisque c'est l'épisode d'après, c'est-à-dire auteur, et voilà.
Oui, en fait, le projet est né c'est de manière concomitante, c'était ensemble. C'est parce que l'un, justement...
Accompagner l'autre.
Voilà, l'un, c'était pour accompagner l'autre. Et c'était aussi une forme d'alternative au fait de ne pas avoir d'espace pour accueillir les artistes. Parce que le projet en soi, c'était d'avoir justement un lieu où je pouvais donc organiser des événements comme ils sont passent aujourd'hui, voilà, et ce que nous faisons aujourd'hui. Et sachant déjà au niveau du budget ce que ça allait coûter, et puis quelle est la réalité donc des aides aux projets de création. Voilà.
Pas grand-chose.
Voilà. Donc, je dis, pour l'instant, l'alternative, donc, pour moi, ce serait le magazine à travers lequel je peux rencontrer des artistes et en faire des portraits, proposer des articles, donc, pour faire vraiment ce pont-là, cette idée de faire cohabiter toujours. Donc, des signatures assez différentes.
L'idée, c'était un tous les 3 mois, un tous les 6 mois.
Exactement, l'idée, c'est tous les 3 mois, ouais. Un trimestriel. Après, il fonctionne en autofinancement, donc il est édité en fonction des abonnements et des achats.
Donc là, il y en a déjà deux qui sont sortis.
Oui, le numéro 1 et le numéro 2.
Et le 3 devrait pas tarder.
Exactement, voilà.
Et donc ça, dans le numéro 1, par exemple, il y a Tony Savannah.
Exactement, Tony Savannah, qui est donc musicien, multi-instrumentiste, percussionniste. Il organise aussi des conférences autour de la musique des tambours, leur origine, et tout le travail qu'il y a, en fait, donc construction des sociétés autour de la musique. Donc il est afro-martiniquais. Et dans cet article-là, justement, j'aborde la question de l'engagement. Après, l'engagement de l'artiste, c'est récurrent. Il interviendra toujours, c'est une rubrique qui interviendra en fait, dans chaque numéro. Donc, dans ce premier numéro, c'est Tony Savannah. Donc, il y a son expérience d'artiste et aussi la question, par exemple, du chlordécone.
La banane, oui.
Voilà. Mm-hmm. Et lui, son regard et la manière dont le sujet est abordé au fait, dans l'espace médiatique.
Dans le deuxième, d'ailleurs, l'engagement, c'est Clotilde Jean-Baptiste, qu'on a reçu à la radio, d'ailleurs.
Exactement. Donc, romancière. Et puis, elle est éducatrice aussi spécialisée et elle intervient donc, auprès des publics qui ne sont pas familiarisés avec la langue française. Et c'est par le biais vraiment des ateliers d'écriture qu'elle propose justement cette initiation.
D'ailleurs, l'engagement et le peu de moyens n'empêchent pas un joli produit. Je trouve que vous avez mis beaucoup de soin dans la fabrication. Le livre est joli en lui-même.
Oui, ben c'est dû en tout cas au travail minutieux de Paul Cuzzi. Ah. Donc c'est un superbe travail, je trouve. J'espère
oui,
que
il est
vous
très
aurez
beau. C'est vrai que c'est
l'occasion
très beau.
D'apprécier. Ouais. Et il y a son expérience, effectivement, bon, il est graphiste, et puis il y a son expérience aussi de journaliste. Donc il a travaillé aussi dans la presse. Et tout. Donc de ce côté-là, voilà, on se complète.
Ouais. Et alors le dernier métier, éditeur ?
Éditeur. Oui.
C'est pas le plus facile. Hein, même.
C'est pas le plus facile. Et bon, et pour l'instant, il est encore, en rodage. Parce qu'après, c'est plus une expérience d'auto-édition. Et donc, je me suis auto-édité avec Contact du Soir, mon dernier recueil, mais qui sera réédité, en fait, très bientôt par les éditions Ubicart, ici à Montpellier. Et le travail au fait que je fais en tout cas en ce moment, c'est plus en fait de l'accompagnement. Donc l'édition en tout cas des anthologies poétiques avec par exemple l'association Voix de l'Extrême. Donc chaque année, il y a un recueil qui sort, qui réunit plusieurs auteurs.
Voix de l'Extrême qui est présidée par Manuela.
Exactement, Manuela Parra. Voilà, et très engagée à Montpellier et qui organise donc chaque année les rencontres franco-espagnoles et aussi la sensibilisation sur les guerres civiles.
L'engagement, ça sous-tend votre vie à tout niveau, hein, en tant qu'auteur, même en tant que travailleur, puisque bon, quand les petits boulots que vous faites, c'est souvent de l'aide à la personne, c'est sur l'autre, tourné vers l'autre. Aujourd'hui, l'engagement, ben voilà, on parlait de Manuela qui est engagée pour la mémoire de ceux d'Espagne. Après, vous croisez aussi la vie de beaucoup de gens qui sont engagés. Je pensais à François Millet quand c'était à Tapuscrit, et puis Scrupule qui se bat pour survivre. Voilà.
Exactement.
C'est important pour vous d'être tout le temps comme ça dans cet engagement. Plus un engagement humain presque que vraiment politique, que militant. On a rarement parlé politique tous les deux.
Ouais.
Mais j'ai jamais pris la tête avec
temps,
ça, mais vous y êtes tout le temps. Voilà.
Oui, ben en fait, c'est en fonction aussi de l'environnement. Donc c'est tout un écosystème dans lequel en fait essaie de naître, de vivre ce projet. Et donc il faut un peu faire sa place aussi. Donc et ça j'en parle en tout cas dans le numéro 2. En tout cas la question de la diffusion et puis l'édition où il y a une interview de Jean-Claude Rivière. Et les choses sont construites comme ça et il y a un système qui est là qui fait exister, donc qui fait marcher le secteur du livre. Et quand on est indépendant, bah, en fait, non, rien n'est donné. Il faut.
Voilà. Tous les gens dont on parle dedans. Et tous les gens qui sont vos amis sont toujours des gens qui sont dans le combat.
Exactement.
On parle de Jean-Claude, voilà, pour sa petite maison Ubicarte, il se bat quotidiennement, alors que bon,
exactement.
On pourrait passer à autre chose. Manuela pour la mémoire de ceux d'Espagne. Enfin, c'est tout le temps des combattants.
Exactement.
C'est important pour vous.
On en est là.
C'est comme ça qu'on se rencontre.
C'est la réalité. Et il faut faire face.
Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Marcel, de ce questionnaire.
Merci.
Et j'espère.
Merci,
aura appris plein de choses sur vous à notre public.
Merci.
Zoga Mayawe, Mkatami le Anenema, Zoga Mayawe.